La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Démographie galopante, épuisement des ressources, pollution devenue intenable. Et si notre planète nous obligeait un jour à partir à la conquête d'autres terres habitables, l'homme, depuis la nuit des temps, n'a jamais arrêté de partir explorer de nouveaux territoires. Et depuis le premier vol d'un humain dans l'espace avec Yuri Gagarin en 61, nos yeux ne cessent de se projeter vers la voûte céleste avec ce rêve donc d'aller bien au-delà de la Lune et de Mars. Ce soir à 20h50, France 5 vous propose En quête d'une nouvelle Terre. C'est un documentaire inédit présenté par Christophe Galfard. Il est mon invité dans un instant avec l'astrophysicien Arthur Vigan pour nous raconter quelles sont les pistes les plus sérieuses pour quitter notre berceau terrien. Et vous pouvez nous rejoindre avec vos questions dès maintenant, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, le plus grand génome jamais séquencé. Et cette première a été réalisée sur un animal fascinant.
Et oui, Mathieu, c'est l'axolotl qui est à la une. Son sourire figé, son énorme génome et ses capacités de régénération hors du commun. On fait la connaissance de cet animal extraordinaire avec le biologiste Jean-Stéphane Joly.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Chantal Lemontagnier avec Thomas Kalevitch.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, En quête d'une nouvelle Terre, c'est donc ce documentaire inédit dont nous parlons cet après-midi dans l'émission qui sera diffusée ce soir à 20h50. Christophe Galfard et Arthur Vigan, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Christophe Galfard, version Tintin donc ce soir sur France 5, avec cette question, comment préparer un voyage vers une autre Terre? C'est une question, Christophe Galfard, qui mobilise vraiment beaucoup de scientifiques aujourd'hui quand on fait le compte.
Bah, étonnamment, j'ai réalisé aussi que depuis quelques temps, la conquête spatiale n'est plus liée à un seul organisme. Avant, il suffisait d'aller frapper à la porte de la NASA et on avait un petit peu tous les corps de métier par rapport à la conquête spatiale, aux fusées, à ce qui pourrait se passer derrière, qui étaient réunis sous cette bannière-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a de par le monde des gens qui s'intéressent et des chercheurs qui travaillent sur énormément d'aspects de la conquête spatiale, que ce soit purement théorique, que ce soit pratique, que ce soit commercial. Mm-hmm. Mais il y a du coup un petit peu partout des progrès qui sont faits et qui sont, je dois le dire, assez excitant.
Voilà, et grâce à tous ces scientifiques, vous avez pu faire le tour de la Terre et on va vous suivre dans un instant au cours de ce périple. Arthur Vigan, justement, on vous retrouve dans ce documentaire dans le désert d'Atacama au Chili, là où vous travaillez de temps en temps, hein, puisque vous êtes basé à Marseille. Est-ce qu'on trouve beaucoup de nouvelles planètes chaque jour, puisque c'est un peu le sens de votre boulot, hein?
Oui, tout à fait. Des planètes, j'ai presque envie de dire qu'en moyenne, on en trouve des nouvelles chaque jour. Après, je ne sais pas, peut-être que les auditeurs savent qu'il y a différentes techniques pour détecter ces exoplanètes. Planètes, hein, donc ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et moi, je travaille avec une technique qu'on appelle l'imagerie directe, où on essaie de faire en quelque sorte des photographies d'exoplanètes.
Voilà, et bien on va se retrouver dans quelques instants pour en parler. Vous nous décrirez un peu le sujet de votre travail avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. À tout de suite. Avec un drôle d'animal aquatique aujourd'hui à la une de la science. Son nom, c'est l'axolotl et ses étonnantes capacités. Le génome complet, justement, de l'axolotl, animal mexicain très proche de la salamandre, vient d'être publié dans la revue scientifique Nature. 32 millions de paires de bases décodées, c'est 10 fois plus que le génome humain. Et donc, un travail de titan pour les chercheurs autrichiens à l'origine de ces travaux. L'occasion pour nous, donc, de parler de cet animal qui fascine les biologistes depuis plus de 150 ans. Et l'occasion pour eux, surtout, d'essayer de comprendre ses super pouvoirs de régénération. Axel, on en dit discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec le biologiste Jean-Stéphane Joly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, coordinateur de l'infrastructure TEFOR, dédiée à l'étude fonctionnelle des gènes de la drosophile et du poisson zèbre. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu d'axolotl, je vous invite à regarder tout de suite quelques images sur internet. Et Jean-Stéphane Joly, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet animal qu'on surnomme le monstre de l'eau? Moi je l'ai trouvé plutôt mignon.
Les gens le trouvent mignon, l'élève, effectivement, ça déchaîne les passions. C'est un animal très bizarre, là, on est sur Terre, mais il y a des choses absolument génial à explorer, dont le génome de cet animal, effectivement, qui est un petit monde très original. 32 milliards de paires de bases.
Ah, c'est milliards,
c'est milliards.
Ah, pardon. Donc, ah oui, on était loin.
Pardon de le corriger. Oui, mais
vous avez raison. Ouais.
On est à 3 milliards, nous, de paires de bases d'ADN, donc pour le grand guide là qui nous construit. Mmh. Et donc cet animal, pour revenir à l'axolote, oui, donc c'est ça fait partie des salamandres, ça a toujours fasciné les gens depuis le Moyen Âge. François Ier, il y a 300 blasons de salamandres à Chambord, parce que c'est un animal qui résiste qui vit dans l'eau, qui vit sur terre et qui résiste au feu. En fait, elles sortaient de leur des bûches ou dans lesquelles elles étaient cachées, et avec le mucus, elles sortaient du feu, et donc c'est un animal fascinant. Et là, il est d'autant plus fascinant qu'il est, je vais être obligé de dire un gros mot, mais il est néoténique. Alors néoténique, ça veut dire quoi? Vous m'auriez posé la question,
ah, oui, sûrement. Oui.
Donc ça veut dire un animal qui est adulte, qui est capable de se reproduire, mais en fait qui garde des caractéristiques juviniles.
Oh, donc
juvénile,
chance,
hein. Là c'est spectaculaire dans ce cas-là, puisque
c'est le Dorian Gray du monde animal, un petit peu, en fait, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est donc le juvénile, c'est va avoir des branchies, va ressembler à une larve, va ressembler à un petit tétard pour ceux qui connaissent, et donc ça va être là un gros tétard de 20 cm.
Mais pourquoi on ne dit pas simplement que c'est une salamandre? Qu'est-ce qui le distingue de la salamandre alors?
Bah parce que justement, il faut voir, placez-vous au muséum au 19e siècle, il ramenait tout un tas de bestioles bizarres de par le monde, l'ornithorynque, tout ça, là il ramène quelque chose qui est un espèce de gros tétard, donc, et il le nomme avec un nom d'espèce. Et puis un jour, le tétard, ils reviennent dans le bac et ils trouvent en fait une salamandre. Et là, le débat se lance, mais en fait, c'est parce que le tétard a été nourri avec des abats de bœuf très riches en hormones thyroïdiennes. Et en fait, il métamorphose, il se transforme en salamandre. Donc c'est une salamandre, oui. C'est une salamandre, mais néoténique.
On parle souvent de ses étonnantes capacités de régénération. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il peut refaire pousser tous ses membres?
Alors, tous ces membres, tout à fait, la queue, tout ce que vous voulez. Mais alors, au-delà de ça, ce qui peut intéresser, évidemment, en recherche biomédicale, après, c'est le cœur, le cerveau. Capacité, si vous faites un trou dans les yeux aussi, si vous abîmez la rétine, à repousser totalement. Donc, pourquoi? Quels sont les gènes qui sont là, dans cet animal? Quels sont les qui sont réactivés et pourquoi pas chez nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose chez nous à terme?
Mais on a compris bien ces mécanismes de régénération ou pas?
Alors, on commence à les comprendre. Il y a des pistes avec différents animaux, dont aussi le poisson zèbre en particulier, qui a des capacités de régénération. Clairement, les mammifères régénèrent très peu. Au maximum, un bout de doigt, au maximum le foie. À l'âge adulte, on a perdu toute capacité de régénération et c'est un enjeu important. Et on commence à avoir des signalisations, des cellules qui envoient des signaux et qui favorisent cette régénération.
Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui coupent des pattes d'axolotes pour les regarder repousser?
Oh non, pas ça, non.
J'ai cassé l'ambiance, là.
Alors, tout est sous contrôle de comité d'éthique. Effectivement, là, ça pose un problème relatif, puisque c'est un animal adulte, un vertébré adulte, et non pas un vertébré embryonnaire. Donc, il faut faire des demandes. La régénération se fait aussi chez des poissons en forme embryonnaire, larvaire. Et là, il n'y a pas de demande d'expérimenter, en fait, sur ces tout petits animaux. Mais là, effectivement, c'est pas absolument génial comme expérience. Mais c'est très utile.
Alors, est-ce que dans ce génome qui vient d'être publié, on commence à comprendre certains aspects, certaines bizarreries que vous avez décrites, cette régénération ou ce stade larvaire?
Alors, dire qu'on comprend des bizarreries du génome. Le génome, donc, c'est le catalogue. Là, il est tout aussi bizarre que l'animal, puisque, comme vous l'avez dit, là, il est énorme. Et il est énorme parce que des éléments répétés, transposables, se sont insérés dedans. Et c'est là où intervient de la technologie à la James Bond, presque. C'est les dernières méthodes de séquençage de l'ADN qui sont extraordinaires. Là, on a en fait des appareils tout petits, hein, ça tient dans la poche, qui permettent de placer une seule molécule d'ADN et une seule polymérase d'ADN. Et de lire sur un zeptolitre, c'est-à-dire 10 puissance moins 21, là on est dans le moins, moins 21 litres, c'est-à-dire pas 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc vous voyez le nombre, dans ce volume-là, on lit les nucléotides sur une molécule, et donc on peut lire vraiment une molécule ADN. Et ce qui est très joli, c'est que cet appareil lit des très longues séquences, donc jusqu'à 20 000 paires de bases d'un coup. Et ça, ça facilite en fait la reconstruction des génomes, parce que avec les méthodes plus classiques qui lisent des tout petits fragments, les chercheurs avaient beaucoup de mal à reconstruire ce genre de génome plein d'éléments répétés. Et là, avec cette nouvelle méthode révolutionnaire qui s'appelle le PacBio, là, commercialement, et ben on a cette séquence d'ADN qui sort. Et on voit qu'effectivement, elle est complètement colonisée par ces éléments répétés. Et là, la question qui vient évidemment et qui n'est pas répondue dans le papier d'ailleurs, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est quel est le rôle de ces éléments répétés dans précisément la capacité qu'a l'animal à se régénérer.
On voit qu'il y a une prouesse technique derrière ces travaux, mais ils n'ont pas fait que séquencer d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi modifié l'ADN de l'axolote.
Voilà, alors il y a deux prouesses techniques qui sont parmi les fronts de science en biologie à l'heure actuelle, en biotechnologie. Donc le séquençage de grands fragments maintenant à haut débit, et puis ce qu'on appelle l'édition du génome, qui est une méthode tout à fait révolutionnaire pour modifier maintenant tous les génomes des animaux et des plantes, des bactéries, de tout ce que vous voulez, de nous aussi, le couper ou bien changer les paires de bases. Donc ça se fait soit avec des molécules appelées TALEN, soit des molécules qui s'appellent CRISPR. Et là, eh bien, c'est tout à fait fascinant qu'ils arrivent à faire ces modifications-là dans cet animal-là, qui est finalement très peu élevé en laboratoire. Et à poser une question précise, là, dans le papier, il manque, en fait, un gène, un des deux gènes qui, normalement, est chez tous les animaux. Et cet animal-là a perdu ce gène-là. Et donc, il casse l'autre, en fait, pour étudier ce qui se passe.
Pour terminer, pour sortir du laboratoire, dans la nature, les axolotes vont bien ?
Ben non, ils vont mal en plus, là, donc justement, problème, c'est donc, on les trouve dans un lac au Mexique quasiment, et leur nombre est en chute libre, on ne sait pas bien pourquoi, d'ailleurs, peut-être la pollution, peut-être le fait que ça sert d'aliment là-bas, enfin, c'est apparemment...
Ah, on mange l'axolote hein.
Pardon ?
Ils mangent l'axolote au Mexique ?
Bah oui, c'est ce qu'on dit. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les recettes là, mais je vous les ramène la prochaine fois.
Bon, non, on les prend pas. En fait, non, on prendra pas la recette de l'axolote. C'est tellement kawaii hein, cet animal, c'est adorable. Allez voir sa photo. Et puis, ça fait aussi l'objet de recherches hein, pour les scientifiques. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Stéphane Joly pour vos explications. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité, la découverte d'un immense réservoir de mercure dans le pergélisol, cette couche gelée en permanence dans les zones froides de l'hémisphère nord et qui renferme environ 10 fois la quantité de mercure produit par l'homme depuis 30 ans. Emprisonné depuis des milliers d'années, le mercure pourrait s'échapper avec la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Les chercheurs s'inquiètent des répercussions que cela pourrait avoir sur l'ensemble des écosystèmes marins et terrestres, d'autant plus que 24% des terres au-dessus de l'équateur sont du pergélisol. Ces nouvelles données aideront les spécialistes à mieux comprendre le cycle global du mercure et à anticiper les conséquences de la fonte, justement, du pergélisol. La méditation ne rend pas forcément bon, outre les nombreux bienfaits sur la santé, comme la réduction du stress ou une meilleure gestion de l'anxiété. Il est parfois admis que sa pratique rend plus empathique. Eh bien, c'est faux, selon des chercheurs anglais. L'analyse d'une vingtaine d'études sur le sujet indique qu'elle ne joue aucun rôle particulier dans la réduction de l'agressivité ou sur les relations aux autres. La prétendue compassion développée par la pratique de la méditation est le plus souvent mise en avant dans les travaux de chercheurs. Également professeur de méditation, un conflit d'intérêts évident qui rend difficile la prise en compte du résultat. Les chercheurs incitent donc à relativiser le pouvoir de certains types de méditation. Et puis pour finir, une étrange araignée à queue retrouvée dans de l'ambre âgée de 100 millions d'années. Un spécimen qui présente des caractéristiques d'espèce moderne et archaïque et qui s'apparente véritablement à une chimère, longue d'environ 8 mm. Plus de la moitié de sa taille correspond donc à une queue couverte de poils comme les scorpions. D'après les chercheurs de l'université du Kansas à l'origine de cette découverte, cet appendice lui servait à détecter son environnement. Pour eux, il est même possible que certains de ses descendants à queue soient encore présents en Birmanie où le fossile, donc de 100 millions d'années, a été retrouvé, de quoi réjouir tous les arachnophobes de cette région du monde. Allez, notre dossier en quête d'une nouvelle terre dans un instant. Baxter Dury, à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Mon nom est Stephen Hawking. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre. Nous devons utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles et nous installer sur une nouvelle planète. Notre curiosité naturelle nous pousse vers de lointaines planètes. Au cours du siècle à venir, nous allons embarquer pour notre plus grande aventure. Notre destin est dans les étoiles. Espace, nous voilà.
Voilà la voix de l'astrophysicien Stephen Hawking en quête d'une nouvelle Terre. Donc c'est ce film inédit que vous verrez ce soir dans la case Science Grand Format, 20h50 sur France 5. Et pour vous guider aux quatre coins du monde et donc à la recherche de ces terres potentiellement habitables, c'est Christophe Galfard qui est aux commandes. Et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages, toutes vos questions sur le site de la tête au carré, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Christophe Galfard, vous êtes physicien, écrivain. Et à vos côtés se trouve Arthur Vigan. Vous êtes, vous, astrophysicien et chercheur au CNRS, au LAM, c'est le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et on vous verra également dans ce documentaire ce soir dans les hauteurs chiliennes du désert d'Atacama. Christophe Galfard, la voix de Stephen Hawking à l'instant, que vous avez retrouvé d'ailleurs pour l'occasion, puisque vous avez été élève de Stephen Hawking à Cambridge. Vous l'aviez revu récemment ou pas? Ou c'était de vraies retrouvailles devant les caméras de France 5?
Ah non, quand même, on se voit de temps en temps. Deux, trois fois par an, on déjeune ensemble. Donc... Là, c'était l'idée de ce documentaire est un petit peu partie d'une phrase qu'il avait prononcée lui, qu'on entend au début qu'il reprend au début du documentaire, qui est justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il va falloir pour la survie de l'humanité que dans moins de 100 ans, on puisse diriger vers une autre planète pour que l'humanité ne mette pas tous ses œufs dans le même panier, mais qu'on ait plusieurs planètes.
Moins de 100 ans, mais c'est très court ça quand même comme délai. Ça veut dire que dans moins de 100 ans, on serait capable d'habiter une autre Terre?
Mais justement, c'est ce qu'on a voulu vérifier, parce que ça paraissait un petit peu étrange et puis pas forcément hyper réaliste ou réalisable. Et du coup, l'idée de ce documentaire, c'était d'aller parler aux scientifiques des quatre coins du monde qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur ce genre de projet, que ce soit directement ou indirectement. temps et faire un petit peu le lien et le liant entre toutes ces recherches pour voir si effectivement, s'il fallait qu'on quitte la Terre, est-ce qu'on en serait capable.
Bon, bah finalement, c'était une bonne mission pour vous puisque vous voilà dans un nouveau costume, celui de passeur donc pour France 5 ce soir. Et vous avez été aux quatre coins du monde pour rencontrer tous ceux qui, dans des disciplines très différentes, travaillent autour de cette idée-là.
Ah oui, c'est sympa de faire des documentaires.
Ah oui, c'est pas mal, on vous envie énormément. Vous êtes allé où alors, si on fait la liste des pays?
Mais alors, il y a des endroits qui, par exemple, le désert d'Atacama où je suis allé rejoindre Arthur qui est ici présent et son collègue Raphaël Galichet. C'est un des endroits au monde où on peut faire de l'imagerie directe. J'imagine que
on va en parler tout à l'heure. On va
l'imagerie directe de planètes lointaines. Ça, d'un point de vue de rêve, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, il y a des endroits où, par exemple, on peut voir avec nos yeux les effets des radiations, en l'occurrence qui proviennent du Soleil, mais il y en a d'autres encore qui sont des radiations cosmiques et leur impact. L'impact que ça pourrait avoir sur le corps humain, ça, on est allé vers le pôle Nord, pas très loin du pôle Nord, c'était joli, très joli là-bas aussi, avec ces aurores boréales. On est allé dans des endroits où des scientifiques travaillent sur l'hibernation, parce que dans pas mal de films de science-fiction, on parle d'hibernation, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on pourrait hiberner et à quoi ça nous servirait d'hiberner pour partir? On est allé demander aux experts comment on pourrait faire ce genre de choses. Enfin bref, on est allé un peu partout.
Vous êtes allé dans les cuisines de grands restaurateurs parisiens, vous êtes allé à Cologne à la rencontre de Thomas Pesquet, mais là c'était pour un dialogue, puisque lui à ce moment-là était dans la Station Spatiale Internationale. Bref, on va entendre quelques extraits du doc pour ce soir. Justement, Arthur Vigan, vous, quel est votre travail autour de ces exoplanètes dans votre laboratoire de Marseille, lorsque vous n'êtes pas dans le désert d'Atacama derrière ces télescopes géants?
Alors, dans ma vie de tous les jours, du coup, je travaille au LAM à essayer de trouver des nouvelles planètes et aussi développer des nouveaux instruments pour mettre sur des grands télescopes qui permettront de détecter de futures planètes, pourquoi pas dans le futur lointain, des planètes habitables. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a différentes techniques pour trouver ces exoplanètes et certaines ont trouvé beaucoup jusqu'à maintenant. Celle sur laquelle je travaille, l'imagerie directe, est vraiment particulièrement intéressante parce que on a une image directe de ces planètes, c'est-à-dire qu'on voit.
Donc c'est vraiment une photographie maintenant de ces planètes.
Voilà. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est en gros on détecte un point à côté de l'étoile. On n'arrive pas à avoir de détails sur la planète elle-même. Évidemment, on en est encore très très loin. Je sais même pas si on pourra faire ça un jour. Mais là, on peut observer certaines étoiles et dire si oui ou non on voit une planète en orbite autour de cette étoile.
Et vous en avez pêché beaucoup dans votre filet ou
pas? Alors. Pas tant que ça, mais on y travaille et justement on en a découvert une il y a quelques mois avec l'instrument Sphère qui est installé sur le Very Large Telescope, le VLT au Chili. C'est une découverte importante parce que depuis qu'on a installé l'instrument Sphère en 2014, on a observé peut-être 250-300 étoiles et c'est la première nouvelle exoplanète qu'on découvre avec cet instrument.
On va en parler tout à l'heure, on va décrire justement cette découverte. On en a combien à peu près d'exoplanètes? Là on était à 4000 à peu près, vous dites 3800 dans le doc.
On est à quelques milliers. Après, les images les planètes dont on arrive à faire une image, on est à peut-être une dizaine ou une quinzaine. Ouais. Donc vous voyez que c'est une technique qui trouve
très
peu de planètes
récente,
et qui est très récente.
Je crois que le compte aujourd'hui, c'est 3604, le compte officiel de
planètes exoplanètes. Tous les découvertes. Jours, en fait, on peut voir le chiffre se transformer, évoluer. Une question de Patrice. Au lieu de faire miroiter un nécessaire mais lointain déménagement de l'humanité, Christophe Galfard, est-ce que l'urgence n'est pas de concentrer les grands esprits scientifiques à trouver des énergies et des ressources nouvelles sur Terre pour sauver les hommes? Il y a beaucoup de messages en ce sens. Alors, pourquoi aller aussi loin alors qu'il faudrait s'occuper de notre pauvre planète, là, qui est en mauvais état?
C'est une très bonne question. En plus, on la pose souvent, même de manière plus générale, par rapport à la science. Pourquoi ne pas tout concentrer sur des problèmes qu'on aurait ici sur Terre? Il y a plusieurs manières de répondre à ça. La première, c'est que souvent, il arrive assez souvent qu'on trouve des solutions lorsqu'on regarde ailleurs. C'est-à-dire que si on se focalise sur un problème qui peut avoir lieu ici sur Terre, on peut passer complètement à côté d'une solution. De s'ouvrir l'esprit, de regarder l'espace, ça peut faire du bien pour trouver des solutions ici. Par exemple, si on ne parle que de la Terre, on ne se rend pas compte à quel point notre planète est réellement exceptionnel et fragile. On ne peut pas s'en rendre compte, réellement. Alors que si on voit l'espace, si on commence à poser un pied là-haut et qu'on se rend compte à quel point le reste de l'univers est hostile, en tout cas celui qu'on connaît pour l'instant. Ah ben là, tout d'un coup, on se dit ah oui, d'accord. Donc en fait, chez nous, il y en a pas 40 000 des endroits comme ça. En tout cas, qu'on connaisse, il y en a qu'un.
Vous préconisez des petits voyages aller-retour comme ça pour se rendre compte de loin, même dans l'ISS, hein, à 400 km d'altitude, on peut voir à quoi ressemble la Terre. Hein.
Exact. Et puis il y a aussi le fait que ces recherches qui peuvent paraître être uniquement dévouées, dédiées à l'exploration spatiale, ont des retombées technologiques, médicales, pour l'industrie, pour la vie de tous les jours, pour le grand public. C'est pas forcément des retombées qui sont immédiates, mais à moyen terme, c'est des retombées qui ont lieu systématiquement. Mmh. Et troisièmement, je pense qu'une des meilleures manières de protéger notre monde à nous, c'est la connaissance, c'est la curiosité, c'est la compréhension, la joie de la découverte. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature, qu'elle soit ailleurs dans l'espace ou ici sur Terre. Ça fait partie voilà, de ce qu'il faut faire, ouais, il me semble.
Et puis là, il y a effectivement, Arthur Vigan, des défis scientifiques, technologiques, humains qui sont absolument inouïs dès lors qu'on s'intéresse justement à ces terres potentiellement habitables.
Oui, tout à fait. Enfin, même ne serait-ce que moi, le petit domaine qui me concerne, qui est trouver des exoplanètes, de faire des instruments pour les
découvrir. Soyez pas modeste, parce que c'est pas un petit domaine.
Non,
quand même.
Ouais, c'est un domaine qui est très vaste et où il y a beaucoup de recherches qui est faite non seulement pour comprendre ces exoplanètes, comment elles se sont formées, comment elles évoluent, mais même au niveau des instruments qu'on doit développer pour pouvoir les détecter, pour pouvoir détecter éventuellement des planètes qui seraient habitables. Il y a des véritables défis technologiques à effectuer dans ces domaines-là. Et je suis d'accord avec Christophe dans le sens où ces défis technologiques qui servent à imager ou détecter des exoplanètes, ben ça va avoir sur le moyen ou long terme aussi des retombées pour des recherches qui pourraient être applicables à comment améliorer notre vie ici sur Terre.
C'est quoi les plus grands défis technologiques justement aujourd'hui pour essayer d'observer ces planètes très lointaines de nous ?
Alors, pour refaire des images d'exoplanètes par exemple qui seraient dans une zone qu'on pourrait dire habitable autour d'étoiles proches, oui. On est obligé d'utiliser des très grands télescopes. Là actuellement on utilise des télescopes de 8 ou 10 mètres de diamètre comme le VLT. Mais si on veut aller encore plus proche des étoiles, on va être obligé de développer des télescopes de plusieurs dizaines de mètres. Certains de ces télescopes sont en cours de développement, ouais. Mais avoir un télescope, c'est bien joli, mais derrière, il faut pouvoir contrôler ce télescope, il faut pouvoir le connaître dans ses moindres détails pour pouvoir les données qu'on va récupérer pour pouvoir les analyser ensuite et espérer détecter le signal extrêmement faible d'une planète qui se trouverait dans ces données-là.
On va de record en record, d'ailleurs, hein, aujourd'hui.
Ben oui, certainement.
Parce qu'on fabrique des objets. Maintenant, le diamètre le plus important, c'est quoi aujourd'hui
le plus grand télescope actuellement est de l'ordre d'une dizaine de mètres. En optique, oui, bien sûr, oui, pardon. Effectivement, après, il y a des radiotélescopes beaucoup plus grands, mais en optique, c'est une dizaine de mètres. Mais il faut savoir qu'actuellement se construisent la future génération de très grands télescopes, ce qu'on appelle les ELT, Extremely Large Telescope, au Chili, qui feront une trentaine à 40 mètres de diamètre.
Voilà, et on ratiboise des montagnes pour ça. C'est très impressionnant à voir pour justement les construire. On poursuit le voyage avec vous dans un instant en quête d'une nouvelle Terre. France 5, ce soir, 20h50 et cet après-midi, dans La Tête au Carré.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi, j'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas, j'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux,
Tes yeux, c'était Angèle sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, nous partons en quête d'une nouvelle Terre avec Christophe Galfard et l'astrophysicien Arthur Vigan. Et vous verrez les images de ce voyage donc sur France 5 ce soir avec vos messages sur le site de l'émission. Jean-Paul nous dit ceci, Christophe Galfard, un voyage jusqu'à la planète Mars, est-ce que ça ne va pas créer un fort stress? Le fait de s'éloigner de notre planète Terre chez les astronautes, un vrai choc psychologique en ne voyant plus justement la Terre?
Bah, il y a déjà un choc psychologique, je crois, des premiers astronautes qui voient la Terre depuis l'espace. D'être au loin et de voir l'intégralité de notre monde à distance. Mm-hmm. Tous les astronomes que j'ai entendus et à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était quelque chose dont on se remet assez difficilement. Ça correspond un petit peu à la question de tout à l'heure. Une fois qu'on a vu ça, on se dit « Oh là là, il faut protéger notre monde ». Alors pour aller jusqu'à Mars, ce seront les premières personnes, je pense, qui, à un moment, perdront de vue notre monde. Mmh. Complètement.
Vraiment,
oui. Il y a forcément un moment où ils seront de l'autre côté du Soleil. Forcément. À plusieurs centaines de millions de kilomètres de nous. Là, on ne verra plus la Terre du tout. Je pense que, quelque part, les premières générations d'humains qui vivront ça auront intérêt à être solides psychologiquement.
Mmh. Ouais. Arthur Vigan, vous partagez cette opinion aussi complètement, sur le choc psychologique?
Je pense que ça doit être un choc, un réel choc de perdre la vision de la Terre. Et d'ailleurs, je pense que quand on était au Chili avec Christophe, tu m'as demandé si je souhaiterais m'embarquer sur un voyage qui partirait aujourd'hui. Ouais. Et moi, ma réponse a été non. Hein. J'ai dit, moi, mon rôle, c'est de les trouver, ces exoplanètes. Après, je laisse à d'autres le courage d'y aller.
Oui, la Lune, c'est bien, finalement, moi, je trouve. Hein, parce que c'est pas loin, on peut rentrer facilement sur Terre. Ça, c'est déjà un bon compromis. Et il y a encore plus près, eh bien, c'est la Station Spatiale Internationale. Et justement, pour ce doc, Christophe Galfard, vous avez pu faire une interview avec Thomas Pesquet. À l'époque, il était dans la Station Spatiale Internationale, donc 400 km de distance pour cette liaison. On écoute un extrait de votre entretien avec Pesquet.
Ici Houston, êtes-vous prêt pour la liaison?
30 secondes.
Ah, le voilà. Thomas.
Un jour ou l'autre, pour survivre, l'humanité va devoir coloniser un autre monde. Est-ce que vous travaillez sur une expérience particulièrement adaptée ou qui pourrait nous éclairer justement sur ces longs voyages spatiaux?
Bien sûr, alors il y a une expérience MAREF qui se trouve derrière moi, qui ressemble un peu à une chaise de torture, mais elle vise à déterminer vraiment très très précisément les changements dans les muscles et dans les os. Il y a une expérience qui s'appelle Fluid Shift, qui essaie d'expliquer les changements de vision qu'on a constatés chez les astronautes. On ne veut pas envoyer des gens sur Mars pour qu'ils arrivent et qu'ils ne soient pas en état de travailler. Donc tous les jours, on a un petit aperçu du futur en réalisant des expériences scientifiques. Et puis pour nous, c'est sûr que c'est très sympa. Ça nous donne l'impression vraiment de déjà participer au voyage.
Est-ce que vous pensez qu'on est loin de réussir à faire un pareil voyage?
Les gens pensent que c'est de la science-fiction, mais regardez, ça fait 15 ans qu'on est dans l'espace, ça marche très bien. Évidemment, l'environnement est difficile, mais on avance. Je pense que si on arrive à vraiment se concentrer sur les problèmes technologiques, eh ben, dans 15-20 ans, on peut être sur Mars.
Voilà, casting de stars hein, pour ce documentaire coproduit avec la BBC, Christophe Galfard, puisque Thomas Pesquet y figure, Stephen Hawking, donc on l'a entendu tout à l'heure, le cuisinier Thierry Marx, et puis également le skipper Armand Lecléache, avec lequel vous êtes monté sur un bateau. Pour parler de quoi d'ailleurs?
Imaginez que vous devez partir pendant, je sais pas, 3 mois pour Mars, dans vraiment
le meilleur des cas.
Ouais. Même si on peut faire un peu mieux, ce sera longtemps de toute façon, voire des années pour arriver sur une exoplanète. Faut bien réussir psychologiquement, etc., à se préparer à un voyage aussi long. Les explorateurs marins, les grands voyageurs des océans, passent un temps fou, assez long, sur les océans, sans contact, en tout cas physique, avec d'autres personnes, et ils sont obligés d'avoir prévu toutes leurs ressources au départ. Du coup, il y a un petit parallélisme qui peut se faire entre traverser un océan seul dans un bateau et partir à l'aventure dans l'espace, en tout cas sur la préparation a priori. Et on a voulu avoir l'avis de marins comme Armel Lecléache.
Ouais. Et quand on fait appel à un cuisinier comme Thierry Marx, c'est pour manger des bons petits plats aussi pendant ses voyages et pas trop s'ennuyer avec son assiette.
Accessoirement, oui.
Parce que c'est lui qui nourrit les spationautes.
Alors, il a fait les plats spéciaux de Noël à la demande de Thomas Pesquet pour les visiteurs de la station spatiale internationale, parce que c'est quelque chose que nous on a pas mal l'habitude de ça, nous en France. Il y a quelque chose de fondamental et psychologiquement important à se réunir autour d'un bon repas. Imaginez que vous êtes perdu, qu'au-delà du mur qui est à votre droite, votre gauche, au-dessus, en dessous, c'est le vide de l'espace. Vous ne voyez pas la Terre depuis des mois. Vous ne la verrez pas pendant des mois, voire des années. Vous êtes là.
On se console avec un bon foie gras, c'est
ça? Ça fait du bien d'être, peut-être pas forcément un foie gras, mais ça fait du bien. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce qu'il faut que ce soit beaucoup plus,
Qu'est-ce que vous mangez dans le documentaire?
Alors, il y a du poulet au mori et au vin blanc, c'est très bon. Et qu'est-ce que c'était?
Il y avait un dessert aussi, je crois, qui était fait, oui.
Un pain d'épices.
Voilà, le pain d'épices, hein, c'est ça, absolument.
Et puis on ne peut pas avoir de miettes. Il ne faut pas que quand la boîte s'ouvre, il y a des miettes ou des gouttes qui partent en apesanteur. On peut les respirer derrière et ce serait une catastrophe. Il ne faut absolument pas qu'il y ait la moindre bactérie qui traîne à l'intérieur. Imaginez si vous êtes malade dans l'espace, c'est fichu. Ouais. Il y a énormément de problèmes comme ça auxquels des gens réfléchissent.
Voilà, donc vous avez testé tout ça, au fond, c'est l'objet aussi de ce documentaire. Avec notre système solaire aussi, il vous a intéressé comme un endroit potentiellement habitable pour l'humain ou pas? Où vous êtes allé tout de suite au-delà?
On s'est demandé, où est-ce qu'on pourrait aller? Effectivement, dans le système solaire, il y a quelques endroits qui ne sont pas trop catastrophiques. Ce sont en gros Mars. Il existe une petite atmosphère. On ne peut pas y vivre à l'extérieur comme ça, c'est juste impossible. Sans scaphandre, sans combinaison, il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas assez d'air, d'atmosphère. L'eau de votre corps se mettrait à bouillir. L'eau de vos yeux, l'eau de votre salive, votre peau se mettrait à se craqueler, votre sang se mettrait à bouillir. Bref, ce n'est pas génial.
Non.
Mais il y a éventuellement d'autres endroits, quelques lunes de Jupiter ou de Saturne, où éventuellement on pourrait trouver de l'eau liquide. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une atmosphère, mais sous un dôme, pourquoi pas. Mais là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre planète Terre? Un endroit où il y a une atmosphère, un endroit où on pourrait éventuellement respirer à l'air libre, etc. Et ça, il faut sortir du système solaire.
On va en parler dans un instant. Il y a une question pour vous, Arthur Vigan de Benoît. Il nous dit, est-ce qu'on peut imaginer justement une planète de la taille de Jupiter, voire plus grosse, mais de structure solide avec une atmosphère qui soit potentiellement habitable? Alors, une géante tellurique. Est-ce qu'on pourrait trouver ça? Ça n'existe pas pour l'instant.
Non,
on
a détecté ce qu'on appelle des super-terres, donc ce sont des planètes qui sont un petit peu plus massives que la Terre, un petit peu plus grosses que la Terre. Après, des géantes comme Jupiter, je pense que c'est très peu probable parce que, en fait, avec le mode de formation des exoplanètes, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un cœur rocheux qui va se former. Et si ce cœur rocheux devient suffisamment massif, en fait, il va accréter du gaz qui est en orbite autour de l'étoile, dans le disque protoplanétaire. Et du coup, ce gaz va former une atmosphère. Et donc, on va se retrouver avec une planète géante gazeuse comme Jupiter beaucoup plus massive que Jupiter. Hein. Les planètes qu'on peut détecter par imagerie actuellement, ce sont des Jupiter ou des super Jupiter de plusieurs masses, plusieurs fois la masse de Jupiter.
Ouais. Donc, c'est du gaz, tout ça. Hein.
C'est du gaz. Mais après, potentiellement, autour de ces planètes, on pourrait avoir des satellites qui se forment. Et comme l'a dit Christophe, Christophe, dans le système solaire, on sait qu'il y a de l'eau liquide dans certains satellites autour de Jupiter et de Saturne. Mmh. Et donc, pourquoi pas imaginer une planète géante gazeuse, certes, sur laquelle on ne pourrait pas se poser ou vivre, mais potentiellement un satellite autour qui pourrait être relativement massif et pourquoi pas avoir une atmosphère.
Ouais, une géante tellurique, ça pourrait être une découverte absolument géniale quand même.
Oh, oui.
À laquelle
oui.
Personne ne s'attend. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'avec vos télescopes géants, peut-être un jour, vous tombiez sur cette anomalie
Oui, pourquoi pas. Ouais. C'est, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber au ouais. final. C'est ça qui est intéressant.
Et encore anomalie. Bon, c'est peut-être la règle aussi ailleurs, mais... Ça paraît très improbable en tout cas.
Ouais, moi ça me semble assez improbable, mais bon, je veux pas fermer la porte non plus.
Quand bien même on en trouverait une, si l'auditeur voudrait aller s'installer là-bas, il y a de fortes chances que la gravitation à la surface de cette planète soit tellement grande qu'il serait complètement aplati au sol sans être capable de bouger.
C'est sûr que la gravité sur ces planètes géantes est beaucoup plus élevée que sur notre Terre, et auquel nous on a évolué de manière à s'adapter à la gravité qu'on a sur Terre. Et c'est sûr que si on se retrouve dans des conditions où la gravité est très différente, beaucoup plus importante, il est tout à fait probable qu'on n'arrive pas à survivre.
Allez, vous poursuivez vos questions, vos messages, franceinter.fr. Et nous, on poursuit le voyage dans un instant avec de nouvelles idées technologiques aussi pour aller plus vite et plus loin.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago. Viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo. À grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. D'un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Et je te chouraverai ton blouson, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Voilà, laisse béton 1977 et Renault sur France Inter.
La tête au carré.
Enquête d'une nouvelle terre, Christophe Galfard, Arthur Vigan, mes invités donc cet après-midi avec vos messages sur le site de l'émission. On parlait de Mars tout à l'heure, il y a Stéphane qui demande est-ce qu'on sait à quoi est due la disparition de l'atmosphère martienne ? Qui veut répondre à Arthur Vigan ?
Ben, en fait, Mars est une planète qui est beaucoup moins massive que la Terre, donc sa gravitation, on en parlait à l'instant, est beaucoup, mm-hmm. beaucoup plus faible que celle de la Terre. Et du coup, elle est pas suffisamment massive pour avoir retenu son atmosphère et du coup avoir une densité d'atmosphère suffisante pour que ce soit respirable. En l'occurrence, l'atmosphère de Mars est surtout constituée de CO2. Donc, alors que nous, on a besoin d'oxygène pour pouvoir respirer.
Et bien justement, après Christophe Galfard dans le désert d'Atacama, Christophe Galfaro au pôle Nord, voici Christophe Galfard dans la centrifugeuse pour ressentir la gravitation. Hein. C'est ça, Christophe ?
Mais... On a réalisé depuis assez longtemps que les astronomes qui sont dans l'espace perdent énormément de muscles, de masse osseuse, que leur cœur qui est un muscle marche moins bien, qu'ils ont des problèmes aux yeux, etc. en revenant sur Terre. Il y a des images qui sont assez rigolotes d'astronomes qui reviennent sur Terre, qui n'arrivent pas des astronautes qui reviennent sur Terre et qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, qui n'ont plus d'essence de l'équilibre libre et tout ça. Donc si, et ça on parle de quelques mois passés dans l'espace, si on parle d'années passées dans l'espace, si c'est pour arriver sur une nouvelle planète et d'être absolument incapable de marcher, de se tenir debout pendant des semaines, etc., ça risque de pas être bon pour fabriquer une colonie quelque part. Du coup, forcément, il faut trouver des solutions. Et une des solutions les astronautes qui sont sur la station spatiale, ils font des heures et des heures de
centrifugeuse.
D'entraînement. Et une possibilité, c'est la centrifugeuse. Mmh. C'est-à-dire de se retrouver dans une sorte de manège qui tourne relativement vite, qui vous éjecte vers l'extérieur, ce qui fait que même allongé, vous allez avoir l'impression d'être debout. Et en ayant l'impression d'être debout, ça veut dire que vous recréez une forme de gravitation.
On va vous écouter, hein, puisque justement vous avez testé ça pour nous. Christophe Galfard dans la centrifugeuse.
Aujourd'hui, je vais ressentir cette gravitation artificielle moi-même. Alors là, il faut que je m'allonge.
Oui, c'est ça.
Ce drôle d'appareil est une centrifugeuse. Lorsqu'elle se mettra à tourner, elle exercera une force sur mon corps qui imite la gravitation.
Tu m'entends ?
Affirmatif. Oui, je vous entends.
Départ centrifugeuse.
La centrifugeuse a commencé et tout ce qui est au centre est expédié vers l'extérieur. Alors du coup, comme ma tête est au milieu et mes pieds sont vers l'extérieur, c'est tout mon corps qui est attiré vers le bas.
La centrifugeuse tire tout vers mes pieds, comme le fait la gravitation quand je suis debout.
Ah, ce qui est assez étrange, c'est pas une sensation désagréable, c'est même plutôt agréable. J'ai l'impression que le lit sur lequel je suis plus ou moins allongé est en train de se soulever au niveau de la tête, comme si j'étais en train de me relever.
Arrêt de la centrifugeuse.
D'après les chercheurs du Centre spatial allemand, les astronautes n'auraient besoin de s'exercer que 20 minutes par jour dans une centrifugeuse comme celle-ci pour annuler les effets néfastes de l'apesanteur.
Et comment on se sent en sortant de cet appareil redoutable, Christophe Galfard ?
Pas bien du tout.
Vous n'avez pas mangé votre petit morceau de poulet au mori.
Je suis resté 10 minutes dedans, ils ont arrêté la centrifugeuse parce qu'ils ont vu sur leur capteur que 10 secondes plus tard, je tombais dans les pommes.
Ah oui, quand même. Ouais. Bon, ben, ça n'a pas été filmé en tout cas pour le documentaire de ce soir. Arthur Vigan, alors, quelle est l'exoplanète finalement la plus intéressante pour le moment que vous ayez découvert ?
Alors personnellement et disons avec mes collègues, j'en ai découverte qu'une, donc forcément elle est très intéressante.
Donc avec Sphère, hein.
Avec l'instrument Sphère, ouais. Donc c'est une planète qu'on a annoncée il y a quelques mois maintenant, c'était en juillet 2017.
Ouais.
C'est donc la première exoplanète qu'on a détectée avec Sphère, mais c'est une planète géante, hein. Donc c'est une planète de entre 6 et 10 ou 12 fois la masse de Jupiter.
Ah, c'est une belle bête.
Donc c'est une énorme bête et qui se trouve dans une association d'étoiles relativement jeunes, donc environ 10 millions d'années, qui se trouve à 300 années-lumière de la Terre, donc assez loin.
Ouais.
Mais voilà, ces planètes géantes, elles sont particulièrement importantes parce qu'elles ont un effet structurant sur les systèmes planétaires. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une influence gravitationnelle telle qu'elles vont potentiellement pouvoir favoriser la formation de planète tellurique plus interne dans ces systèmes-là. Donc
elle est surveillée aussi à ce titre-là ?
Voilà, tout à fait. Maintenant qu'on sait qu'il y a une planète là, peut-être qu'en fait c'est pas juste une planète géante, c'est peut-être un système planétaire. Donc ça nous fait des cibles privilégiées pour peut-être dans 20 ans ou 30 ans, quand on aura des télescopes encore plus grands, des imageurs d'exoplanètes encore plus performants, pour aller chercher des planètes plus proche à l'intérieur de ces systèmes.
Comment s'appelle cette planète alors ?
Elle s'appelle HIP 65-426b.
Bravo, voilà. Très bien. Et on peut voir sa photo alors ?
Oui, si vous cherchez HIP 65-426b, ouais. On a vraiment la photo.
Voilà. Ouais. Parce qu'il y a quelques années à peine, moi je me souviens, hein, quand on a commencé la tête au carré, c'était quasiment illusoire d'avoir une photo directe d'une exoplanète.
Oui, la première, les premières... objets relativement peu massifs, donc plusieurs masses de Jupiter quand même, ont été imagés au cours des années 2000 et quelques. Hein, et maintenant, on en trouve un petit peu plus. Et surtout, maintenant, on a développé des instruments, comme l'instrument Sphère, qui sont vraiment dédiés à cette tâche, qui sont entièrement optimisés pour ça. Donc, sur des grands télescopes, avec des systèmes pour corriger la turbulence de l'atmosphère, qui nous empêche sinon de détecter ces objets-là. Et puis ensuite, d'atténuer le signal de l'étoile. Parce qu'en fait, il faut bien... bien se rendre compte, c'est que les étoiles sont infiniment plus lumineuses que ces exoplanètes. Par exemple, dans le cas d'une planète comme Jupiter, qui serait relativement jeune, elle est 1 million de fois moins lumineuse que l'étoile. Donc c'est en fait ce qu'on cherche à faire, ce qu'on peut faire avec l'instrument Sphere, c'est comme si on se mettait à Paris et qu'on regardait un phare en direction de Marseille. Et en fait, ce qu'on essaie de détecter, c'est une bougie qui se trouve à 1 mètre du phare. Voilà, donc c'est pour donner quelques ordres de grandeur.
Donc c'est un pari hein, aussi d'arriver à les détecter. Christophe Galfard, vous qui avez mené l'enquête pour savoir sur quelle planète finalement on pourrait potentiellement engager un grand voyage, une mission pour aller peut-être la coloniser, vous l'avez trouvée quand même cette planète. En tout cas, il y a une bonne candidate qui est présentée dans le documentaire là.
Alors il n'y a pas de planète idéale pour l'instant, hein. faut être honnête. On n'a pas trouvé la planète qui ressemble
non.
à la Terre,
dans son ensemble,
où il y aurait
non.
des jolies îles avec un climat tempéré. Non, ça on n'a pas. En revanche, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'il nous faudrait une planète qui soit rocheuse, comme disait Arthur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus, donc à peu près la taille de la Terre, disons, éventuellement avec une atmosphère, ce serait déjà bien.
Ce serait pas un luxe,
oui. Plutôt ni trop chaude ni trop froide, pour qu'on puisse avoir de l'eau liquide en surface, ça ce serait vraiment top, et pas trop loin. Bon, maintenant quand vous regardez l'ensemble des étoiles dans le ciel, toutes, vous regardez tout, ben, y en a une qui est plus proche de nous que toutes les autres. Il y a le Soleil, évidemment, en numéro 1. Et puis en numéro 2, il y en a une qui s'appelle Proxima du Centaure. Celle-là a une planète qui est pas trop loin, ni trop proche d'elle, qui est probablement faite de roches, qui a peut-être une atmosphère et qui a probablement un endroit. Il y a beaucoup de...
Oui, il y a, beaucoup de conditionnels quand même.
En gros, je prendrais pas mon billet tout de suite si j'étais vous. Mais en gros, il y a cette planète-là qui a probablement une partie... qui serait accueillante.
Ah oui, alors c'est marrant parce que c'est une tranche en fait. Hein.
Mais elle est tellement proche de son étoile est toute petite, donc elle est beaucoup plus proche de l'étoile.
Donc très chaude et très froide aussi.
C'est parce qu'elle est comme la Lune par rapport à la Terre. Elle ne tourne pas sa face. Elle montre toujours le même côté vers l'étoile et un autre au loin de l'étoile.
Donc c'est quoi, vous avez des températures en tête,
oui,
Christophe,
ben, non. Mais en face de son étoile, il fait tellement chaud qu'il n'y a absolument aucun moyen.
Je crois que c'est plus de 1000 degrés si mes souvenirs sont bons, mais je ne voudrais pas raconter d'anneries.
Ben, ça dépend de l'atmosphère. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire la température. Ça dépend s'il y a une atmosphère avec de la convection des vents, en gros. S'il n'y a pas d'atmosphère, là, on est sûr qu'il fait environ 2000 d'un côté et moins 100 de l'autre. Mais s'il y a une atmosphère, ça régule. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne température.
Donc, la partie habitable, c'est quoi? C'est l'équateur de cette planète?
Non, l'équateur, ça, c'est ce qui fait face au soleil. Justement, c'est une tranche qui serait une sorte d'équateur, mais verticale. Vous voyez, ça irait de pôle à pôle. Et on a choisi celle-là, pourquoi? Même si elle n'est pas idéale, c'est parce qu'elle n'est pas trop loin. C'est la plus proche de toutes. Celle d'après, Ross 128b, elle est à 12 années-lumière de nous. Celle-là, elle est à 4 années-lumière.
Il faudrait combien de temps pour y aller alors?
Avec une fusée comme Saturn 5, plus de 100 000 ans.
Oui.
Mais avec les technologies qui sont théoriquement en train d'être fabriquées, il y a des possibilités, pas encore d'envoyer des gens, mais des appareils photo par exemple, en 20 ans.
Ah, on va écouter justement l'extrait du documentaire qui concerne les propulseurs avec justement une idée pour aller beaucoup plus vite dans l'espace.
Si l'on veut accomplir le rêve de Stephen Hawking, il nous faut un type de propulsion radicalement différent. Et la solution existe peut-être déjà dans la nature. La foudre. Ces décharges électriques chauffent l'air à plus de 30 000 degrés, transformant sur leur passage le gaz en plasma, la forme la plus énergétique que l'on connaisse de la matière. C'est exactement cette énergie que l'astronaute, ingénieur et physicien Franklin Chang Diaz voudrait dompter pour complètement transformer les voyages spatiaux. Alors c'est là qu'est le bébé?
Oui, il est là. On va le voir.
Un moteur à plasma.
Au début, ce plasma est froid, du moins pour nous. Il fait seulement 40 000 degrés.
40 000 degrés, c'est comme la température de la foudre, non?
C'est ça.
Ensuite, un champ magnétique puissant dirige le plasma vers une deuxième chambre, où il est excité jusqu'à atteindre 3,5 millions de degrés. Et là, ça devient intéressant, car c'est beaucoup, beaucoup plus chaud qu'un moteur traditionnel.
Et puis on relâche le plasma, et ça fait une sacrée fusée.
Et avec ce moteur, quelle vitesse pourrait-on atteindre?
Il peut aller 10 fois plus vite qu'une fusée conventionnelle. Et il pourrait nous emmener sur Mars en seulement 39 jours.
Ah oui, ce serait pas mal. 39 jours pour aller sur Mars. Là, on en rêve. Hein.
Ce genre de technologie-là ouvrirait réellement le système solaire entier à l'exploration humaine. Et ce genre de technologie est déjà utilisé sur les satellites lointains qu'on utilise, qu'on a envoyés vers Jupiter et Saturne pour leur faire changer leur trajectoire un petit peu. Là, ce serait d'un autre niveau. Ce serait pour envoyer des gens, des grosses cargaisons, etc. Mmh. Et effectivement, Mars en 39 jours, ça change complètement la donne.
Ouais. Arthur Vigan, vous aimeriez-vous partir sur Proxima B, par exemple ?
Pas nécessairement. Non. Ouais, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'envoyer des sondes là-bas, si effectivement, en quelques dizaines d'années, on pourrait envoyer une sonde qui nous renverrait des images d'une exoplanète, des images locales, hein, où on pourrait voir des détails à la surface. Après, je parierais pas sur une installation sur Proxima SNB. Quoi.
Et ça, c'est un projet qui a été enclenché par Yuri Milner et Stephen Hawking l'année dernière, où on veut envoyer en moins de 20 ans des petits appareils photo, des petites sondes sur Proxima B pour voir un petit peu ce qu'il retourne de cette planète.
Farid demande, ce sera la dernière question, Christophe Galfard, est-il exact que grâce à une hibernation maîtrisée lors d'un voyage vers Mars ou Saturne, notre corps serait protégé des rayons cosmiques nocifs?
Alors ça, c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai découvert, enfin que j'ai apprises pendant le tournage de ce documentaire, c'est qu'effectivement, l'hibernation peut nous protéger contre les radiations mortelles qui existent dans l'espace, mais j'en ai parlé avec un des spécialistes du sujet, on le voit dans le documentaire, il y a un petit problème, c'est qu'on sait éventuellement endormir les gens. On ne sait pas du tout comment les réveiller.
C'est ballot. En tout cas, on en saura plus ce soir en regardant donc ce doc inédit Enquête d'une nouvelle Terre. C'est sur France 5, 20h50, dans la case Science Grand Format. Et on vous retrouvera, Christophe Galfard, aux côtés d'Arthur Vigan. Voilà. Et puis, on peut signaler toujours L'Univers à portée de main. Il y a une nouvelle édition enrichie qui a été publiée, Christophe, chez Flammarion, en coédition avec Radio France. Ça vient de paraître il y a quelques semaines à peine. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et donc, à ce soir.